Bonjour. Le chaos et l'effroi, épargnés depuis les attentats de Madrid en 2004, l'Espagne est à nouveau frappée par le terrorisme. Deux attentats à la voiture Bélier ont frappé la Catalogne, sur la populaire avenue des Ramblas à Barcelone, hier en fin d'après-midi, et cette nuit sur le front de mer de la station balnéaire de Cambrils. 13 morts, plus de 100 blessés selon un bilan provisoire. 26 Français figurent parmi les blessés, dont 11 grièvement. Dans ce journal, nous ferons le point avec Nathalie Hernandez sur le déroulé de ce qui ressemble bien à des attaques coordonnées. Et nous irons à Barcelone qui se réveille en état de choc avec notre envoyé spécial Thibault Lefebvre. Comment prévenir ces attaques successives? Comment lutter contre le terrorisme qui continue à frapper l'une après l'autre toutes les grandes villes européennes? Vous en parlerez avec votre invité Laetitia Gaillet.
Oui, avec le chercheur spécialiste de l'islam contemporain Jean-Pierre Filiu à 8h20. Et puis à 8h40, interactive avec Jean-Pierre Filiu toujours. Claude Guibal du service étranger de France Inter nous rejoindra. Claude Guibal, auteur du livre Islamistan. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
En France, le ministère de l'Agriculture dévoile le premier produit contaminé au fipronil, des gaufrettes vendues sous des marques de distributeurs, premier d'une liste qui va sûrement s'allonger. Et puis direction le glacier de Lilimani en Bolivie en fin de journal, deux calottes glaciaires qui racontent la mémoire de notre climat en ont été extraites, elles viennent d'arriver à Grenoble.
France Inter.
C'est donc le scénario de plusieurs attaques terroristes simultanées qui se dessinent en Espagne. Un premier attentat à la voiture Bélier à Barcelone, hier en fin d'après-midi sur les Ramblas, suivi vers minuit d'une nouvelle attaque sur le même mode opératoire à Cambrils, sur le front de mer de cette station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone. 6 passants ont été blessés, dont 2 grièvement. Cette fois, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur le véhicule, une Audi A3. Les 5 hommes à bord de la voiture ont été tués. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Peut-on faire un lien entre les deux attaques de Cambrils et de Barcelone?
C'est une certitude pour la police catalane. L'attaque de cette nuit dans la station balnéaire est liée à l'attentat de Barcelone. Et pour les enquêteurs, ce qui s'est passé dans la capitale catalane est bien lié à une explosion survenue hier matin dans une maison d'Alcanar, située à 200 km de Barcelone. Une explosion qui a fait un mort et 7 blessés. Une vingtaine de bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans l'habitation. Et pour le porte-parole de la police catalane, ses occupants étaient sûrement en train de fabriquer des explosifs. Il y a donc bien eu des attaques concertées et préparées, Corinne.
L'Espagne n'avait pas été attaquée depuis les attentats dans les gares et les trains à Madrid en 2004, mais le pays, Nathalie, était dans le viseur de l'État islamique.
L'Espagne, une cible potentielle, d'abord car elle a été partie prenante dans des opérations antiterroristes en Irak, ensuite de par son histoire, à l'Andalous, le Portugal, l'Espagne et une partie de la France sont des conquêtes des guerriers morts au 8e siècle. L'Espagne, encore citée par les terroristes islamistes à de nombreuses reprises, d'Al-Qaïda au groupe État islamique, et c'est vrai que par rapport à ses voisins européens, elle comptabilise peu de combattants partis en Irak ou en Syrie, environ 200 contre plus d'un millier en France. Une cinquantaine sont morts là-bas, 34 en sont revenus. À ce jour, près de 300 personnes, majoritairement de nationalité espagnole et marocaine, sont en prison pour terrorisme. Et malgré des opérations policières préventives, l'Espagne abrite toujours des cellules terroristes. Selon le principal think tank espagnol, le Real Instituto Elcano, des réseaux dormants se sont réactivés avec la montée du terrorisme islamiste dans le nord Mali et en Syrie. En particulier à Barcelone, la capitale catalane et ses environs sont devenus, selon le think tank, le principal foyer du terrorisme djihadiste en Espagne avec des connexions internationales. À titre d'exemple, au printemps, ce sont 9 personnes qui ont été interpellées en Catalogne, 4 d'entre elles suspectées d'être liées aux auteurs de l'attentat de Bruxelles en mars 2016.
Merci Nathalie Hernandez. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé à Barcelone hier après-midi. Il est 17h, les Ramblas, la célèbre avenue qui s'étend sur plus d'un kilomètre entre la place de Catalogne et la mer, sont noires de monde. Sur l'allée centrale piétonne, entre kiosques à souvenirs et marchands de fleurs, une camionnette blanche fait irruption, renversant les passants avant de s'arrêter 700 mètres plus loin. Le dernier bilan fait état de 13 morts et 100 blessés. 26 Français figurent parmi ces blessés, dont 11 grièvement, bilan provisoire pour le moment. Après une nuit de panique et d'horreur, les Ramblas viennent de rouvrir à la circulation. Thibault Lefebvre, vous êtes sur place. On imagine que la ville a du mal à se réveiller de ce cauchemar.
Écoutez, elle se réveille, en tout cas avec une apparente normalité. Les éboueurs sont en train de passer derrière nous. Ce qui change, ce sont les quelques roses et les bougies déposées le long de l'avenue. Les remblas sont ouverts peu avant 6h, alors que toute la nuit, les enquêteurs ont figé la scène de l'attentat. Quelques poussettes abandonnées, des cartes postales dispersées sur le sol, des vélos laissés sur place, des couvertures de survie et des marques au sol pour indiquer l'emplacement des victimes. Esther a assisté à l'attaque. Cette Barcelonaise d'une trentaine d'années travaille dans un hôtel à deux pas des Ramblas.
Quand je suis sortie du métro, j'ai entendu un bruit comme un pétard. Les gens ont commencé à courir. La police est arrivée tout de suite. Elle nous a demandé de fermer les portes. Ce que j'ai vu juste là à côté, c'était deux corps. Le premier, je crois que c'était une jeune fille. Elle était juste là et elle bougeait. Et un peu plus loin au fond, il y avait un autre corps qui, lui, était immobile. Et il est resté là toute l'après-midi, recouvert par un sac plastique. J'ai eu très peur. Jamais de ma vie, je n'ai eu aussi peur.
Une peur ressentie par des milliers de touristes et de Barcelonais comme Vicky. C'est Nicolas, son colocataire français, qui l'a recueilli seulement quelques minutes après le drame.
Elle partait au boulot. Et en fait, quand ma nana elle était sur le balcon, elle a vu les gens remonter du raval. Et elle a tourné la tête. Et là, elle a vu Vicky qui rentrait en fait en courant. Et quand nous, on a voulu lui parler, elle était en larmes. Et on lui a posé une question, qu'est-ce qui se passe ? Et elle a juste dit, il y a des morts partout. Elle a juste dit, il y a des morts partout, en fait.
Des victimes à qui des dizaines de personnes viennent progressivement rendre hommage ce matin sur les Ramblas. Ils seront sans doute beaucoup plus nombreux tout à l'heure vers midi, Plaça de Catalunya. Une minute de silence est prévue tout près de l'endroit où la fourgonnette a commencé hier, vers 17h, sa course meurtrière.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Barcelone avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Et puis à signaler que deux suspects ont été arrêtés suite à cette attaque de Barcelone, mais que le conducteur de la camionnette serait toujours en fuite. Les chefs d'État britanniques, américains, allemands, français ont exprimé leur solidarité avec l'Espagne. Le mode opératoire rappelle bien sûr les attentats, notamment de Nice, Berlin ou Londres. L'Espagne, on l'a dit, qui avait jusqu'ici été épargnée par la vague d'attentats qui frappe l'Europe depuis 2 ans. Et cette fois donc frappée de plein fouet. Écoutez Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol.
Des lieux comme Madrid, Paris, Nice, Bruxelles, Berlin ou Londres ont déjà connu la même douleur et la même incertitude que connaissent aujourd'hui les Barcelonais. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est la principale priorité de la société libre et ouverte qu'est la nôtre. Et c'est une menace globale, mondiale. Et la réponse doit donc être mondiale et globale. Nous partageons tous le même amour de la liberté et de la dignité de l'être humain et d'une société basée sur la justice et non sur la crainte ou la haine. Et nous sommes tous alliés face à cette cause.
Mariano Rajoy qui vient de décréter un deuil national de 3 jours en Espagne. Et puis à noter que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, se rendra sur place à Barcelone dans la journée. Comment se prémunir contre ce type d'attaque? Pour Anne Giudicelli, spécialiste du terrorisme, elle dirige la société de conseil Terrorisque, il est très difficile de définir les cibles potentielles du terrorisme islamiste, car le but des djihadistes, c'est justement de frapper là où on ne les attend pas.
Aujourd'hui, c'est une question d'opportunités pour ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils décident à quel endroit ça peut se passer, ils en étudient la faisabilité et dans un souci d'efficacité, si je puis dire, c'est-à-dire de résultats, ils vont passer à l'action sur la base de failles et sur la base, encore une fois, d'opportunités et de moments. Et souvent, il y a aussi une logique d'aller sur des cibles qui sont moins, considérées comme étant la prochaine, puisque une fois qu'un pays est frappé, en général, il se verrouille davantage. Et que des pays qui ont été touchés, je pense à Madrid en 2004, mais qui ont pansé leurs blessures, voilà des pays qui se retrouvent à nouveau fragilisés, à nouveau aux abois, et surtout ça réveille des souvenirs d'il y a plus de 10 ans.
Anne Giudicelli avec Audrey Morellato.
8h09 sur France Inter, la suite du journal Corinne Audouin et le reste de l'actualité en France. Le ministère de l'Agriculture avait promis une liste. Loin d'une liste, c'est un premier produit qui a été identifié en France comme contaminé au fipronil.
Oui, le fipronil, cet insecticide à l'origine de l'affaire des œufs contaminés. Alors ce produit, ce sont des gaufres fabriquées aux Pays-Bas de marque distributeur, commercialisées chez Carrefour, Intermarché, Leader Price, Système U, Monoprix ou Franprix. Elles viennent d'être retirées du marché. marchés. Annonce faite hier par les services de l'État qui pourrait en augurer d'autres dans les prochains jours. Maxime Debs.
C'est le tout premier cas où le taux de fipronil contenu dans un produit dépasse le seuil toléré par les instances européennes. Le premier et sans doute pas le dernier. Ce n'est certainement qu'un début, reconnaît le ministère. Jour après jour, d'heure en heure, les analyses se poursuivent sur des centaines de produits à base d'œufs, des gâteaux, des pâtes. Il est donc fort probable, estiment les services de l'État, que l'enquête de traçabilité accouche de nouvelles révélations. On est sûr que les fabricants ont l'information et font tout pour nous la cacher, dénoncent les ONG. Et encore, parmi elles, Foodwatch, qui défend l'intérêt des consommateurs, craint qu'au final, le gouvernement ne communique que sur les cas de contamination aiguë, ceux où le seuil de tolérance européen est effectivement franchi, pas les autres. La liste sera-t-elle juste? Sera-t-elle complète? Les associations de consommateurs, vous l'aurez compris, en doutent, mais continuent d'espérer le maximum de transparence de la part des autorités.
Maxime Debs. Dernier épisode ce matin de notre série sur les finances des partis politiques. Parmi les grands gagnants des dernières élections législatives, la France insoumise. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, lancé en 2015, ne bénéficiait jusqu'alors d'aucun financement public. Avec son score à la présidentielle et aux législatives, la France insoumise peut désormais envisager l'avenir plus sereinement. Laurence Perron.
Les Insoumis ont commencé petit. Certes, dès février 2016 et l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, une association de financement a été créée, c'est obligatoire, pour percevoir des fonds publics. Mais l'essentiel de l'argent au départ, ce sont des dons, à commencer par se jeter dans un grand drap rouge à la sortie des meetings, jusqu'à ce qu'il faille ensuite des prêts bancaires, 5 millions d'euros, puis 3 millions, auprès du Crédit Coopératif. Manuel Bompard, directeur de la campagne présidentielle.
Je crois qu'on a été les recordman dans cette campagne du nombre de dons, parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur des petits dons, avec des montants qui n'étaient pas des montants extraordinaires, qui étaient autour de 30-40 euros. Mais c'est clair que ça ne suffit pas pour financer une campagne électorale. Quand vous voyez notamment le prix des meetings, c'est le poste des meetings qui prend à peu près 75% du budget de la campagne.
Et parmi les meetings très chers, bien sûr celui de l'hologramme.
C'est clair que c'est le plus cher. Ouais. Le problème, c'est que vous devez rajouter et multiplier par 7 les frais de location de salle, les frais de sonorisation. Donc au final, on se retrouve dans un meeting qui coûte 1,5 million à peu près.
La campagne a coûté au final quelques 12 millions d'euros. Mais avec 17 députés et plus de 2,5 millions de voix aux dernières élections, les Insoumis, qui partaient de zéro, pourront désormais compter sur un petit matelas de 20 millions d'euros de financement public sur l'ensemble de la législature.
Opération d'évacuation d'un campement de migrants en cours à la porte de la Chapelle dans le nord de Paris. C'est la 35e évacuation du genre en 2 ans dans la capitale. La dernière, c'était il y a un mois, le 7 juillet. Ils étaient 1 000 000 environ revenus s'installer près du centre humanitaire pour migrants qui est ouvert depuis novembre dernier à la porte de la Chapelle. Elle s'appellera la police de sécurité du quotidien. C'est le retour sous un autre nom de la fameuse police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy. Un comeback annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour la fin de cette année. Objectif des nouvelles recrues, retisser le lien de confiance entre la police et la population, notamment dans les quartiers sensibles. Hugo Charpentier est allé demander aux premiers concernés ce qu'ils en pensent à la cité du Clos-Saint-Lazare, à Stain, en Seine-Saint-Denis.
Au pied de leur bâtiment, Moussa, Tony et Sofiane se retrouvent chaque jour à midi, le temps d'une pause déjeuner. Cette bande de potes d'une vingtaine d'années a grandi ici, dans ce quartier de 10 000 habitants. Les policiers, ils connaissent. D'ailleurs, pour Tony, la promesse du gouvernement ne tient pas la route.
Vraiment, dans les quartiers où ils disent « zone sensible », ça marchera pas. La police, ça fait trop de mal dans ces zones-là.
Contrôle à répétition, des insultes, des humiliations, pire parfois.
Il y a déjà eu des personnes qui se sont fait tabasser, tu vois, pour rien. Moi, j'ai déjà vu dans mon bâtiment un flic et un jeune de cité faire un tête-à-tête. Et tête-à-tête, c'est un combat. Pendant le combat, il y avait toujours deux policiers derrière qui étaient toujours là au cas où si... Donc, c'est limite pas un combat, quoi.
Résultat, entre la police et les habitants, la relation est inexistante, explique Moussa.
Les liens sont totalement rompus. Après, bon, si la police de proximité est là pour les rétablir, bah, il va leur falloir du temps. Mais ça va pas se faire comme ça, ça j'y crois pas.
Du temps pour cette nouvelle police, mais aussi, ajoute Sofiane, un vrai travail de formation.
Parce que c'est pas simple d'allier la répression pour des gens qui font des trucs et en plus, à côté de ça, le dialogue avec eux. Faut trouver un équilibre dans tout ça et c'est pas facile.
Cet équilibre, Tony pense l'avoir trouvé, le respect, oublié selon lui depuis tant d'années dans son quartier.
C'est partout pareil, hein, c'est même dans les quartiers. Hein. Tu me respectes, je te respecte. Et c'est comme ça partout.
Et une bonne nouvelle en sport. Les Françaises sont en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. L'équipe de France féminine s'est qualifiée facilement hier soir en battant à Dublin l'Irlande 21-5. Les Bleues terminent en tête de leur groupe. Elles affronteront mardi l'Angleterre, tenante du titre pour une place en finale. Et ça sera un joli crunch, comme on dit.
Alors Corinne Audin, pour terminer ce journal, un peu de fraîcheur avec deux carottes glaciaires qui viennent d'arriver en Bolivie.
Oui,
de Bolivie. Pardon.
Ice Memory, la mémoire de la glace, c'est le nom de ce projet qui prélève, vous l'avez dit, des carottes glaciaires et non pas des calottes glaciaires sur les glaciers du monde entier. Deux de ces bâtons géants glacés de 137 et 134 mètres divisés en petits tronçons sont arrivés hier à Grenoble après un périple de 10 000 km depuis le glacier de l'Illimani en Bolivie. Un trésor pour les glaciologues qu'il a fallu acheminer avec beaucoup de précautions. Récit de Véronique Peillot.
Ces deux carottes de glace reviennent de loin. D'abord, il a fallu 10 jours d'efforts aux scientifiques de la mission Ice Memory à 6300 mètres d'altitude dans la tempête et le vent pour extraire ces 3 tonnes de glace qui renferment 18 000 ans de l'histoire de notre planète. Puis, il a fallu les descendre à dos d'homme du glacier bolivien, les transporter en camion à travers le Chili et le Pérou avant de les embarquer sur un bateau direction la France et Grenoble. Avec une angoisse, ne pas rompre la chaîne du froid, garder une température constante de moins 25 degrés. Jérôme Chaplaz, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble.
Les carottes de glace sont un véritable livre d'histoire. L'alphabet naturel créé dans ces carottes de glace nous permet de reconstituer l'histoire des précipitations, l'histoire des températures, l'histoire des embruns marins, des tempêtes de sable, des pollutions humaines, les traces de dioxyde de soufre, par exemple, produits par la combustion du charbon, la radioactivité produite par les essais thermonucléaires.
Objectif, créer d'ici 2020 la première bibliothèque d'archives glaciaires pour les générations futures qui, avec l'évolution de la science, sauront mieux les faire parler que nous aujourd'hui, pour raconter l'évolution du climat, mais aussi pour faire avancer la recherche médicale.
Par exemple, dans la glace, on retrouve des bactéries, on retrouve des virus. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour extraire ces bactéries ou ces virus de manière non contaminée. Dans l'avenir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles technologies qui permettent d'étudier ces virus et ces bactéries.
Le prochain prélèvement aura lieu en Russie d'ici 1 ou 2 ans sur le mont Elbrouz à 5642 mètres d'altitude. Véronique Pueyo, France Bleu Isère pour France Inter.
Voilà, et puis je vous rappelle, pour terminer cette information donnée il y a quelques minutes par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 26 Français figurent parmi les blessés de l'attentat de Barcelone. 26 Français donc blessés dans cet attentat, dont au moins 11 grièvement. Le ministre des Affaires étrangères qui se rendra sur place dans la journée.